Famille, justice, enfance.
Hey, bonjour, famille, justice, enfance. Un direct un peu perturbé ce soir. Un très, très, très léger retard pour se connecter. Mais un direct tout de même. Alors, nous allons parler aujourd'hui avec Fabienne, avec Maître Georges Domergue et éventuellement Maître Vanessa Frasson qui nous rejoindra peut-être, d'une affaire exemple. Là, voilà, vraiment, on aime bien parfois prendre des cas particuliers. Et moi, je vous les présente lorsque je les ai vérifiés, que je suis certain de ce qu'on est en train de dire. Mais là, vu les intervenants, nous sommes certains de ce que nous sommes en train de dire. Voici un exemple où les liens parentaux, notamment entre les parents et les enfants, sont sous-estimés et sont même quasiment oubliés. C'est une affaire qu'on pourrait appeler l'affaire du lancer de bébé. Ne rigolez pas, mais c'est un peu ce qui se passe. La mère ne se rend pas forcément compte de l'état dans lequel son enfant lui est remis par la crise de violence de l'autre ascendant. Elle l'amène à l'hôpital lorsqu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et là, le système s'emballe et vous allez rire, mais un enfant qu'elle était en train de l'allaiter, on l'a séparé de la maman, on a incarcéré la maman et ça a duré des mois, ça a duré des années. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on demande de l'aide et que le système s'emballe. Fabienne, Maître Georges Domergue, êtes-vous là?
Je suis là.
Oui, ils sont là, c'est parfait. Est-ce que cette présentation d'affaires vous convient ou est-ce que vous voulez la compléter?
Enfin, moi, elle me convient tout à fait. Je laisse la parole à Maître.
Non, mais dans les grandes lignes, c'est effectivement cela qui... Enfin, ce que vous avez dit qui peut résumer ce dossier. Je retiens les termes, le système s'emballe et c'est bien ce qui s'est passé parce que quand une affaire démarre mal, eh bien, malheureusement, les institutions ne sont pas organisées aujourd'hui où les intervenants, magistrats, policiers, même médecins, ne semblent pas outillés pour rétablir les choses rapidement et on s'en tire avec plus de 8 mois de détention provisoire totalement injustifiée pour une mère, son bébé, 19 jours après sa naissance.
Il m'a semblé, Maître, si je ne m'abuse, que les premiers écrits, les premiers effets dans la justice sont déterminants pour la suite du dossier. On parle de première impression dans la vie générale, dans la vie courante, mais n'est-elle pas extrêmement, de manière démesurément importante auprès de l'institution judiciaire?
Oui, c'est-à-dire que malheureusement, il semble qu'on fuit aujourd'hui la réflexion. C'est même pas d'ailleurs la réflexion, c'est le bon sens, c'est-à-dire que la compréhension des choses qui nous arrivent normalement, instinctivement, naturellement, à toute personne, quelle que soit d'ailleurs sa formation, son expérience, le bon sens, normalement, c'est ce qui est partagé par tous ou qui est censé être partagé par tous. Et là, on voit que on n'utilise même pas son bon sens. On a un enclenchement désastreux, dur. Un effet pervers du lien qu'on a voulu créer maintenant de manière systématique entre les différents intervenants avec des signalisations qui passent de services médicaux, services sociaux, à la justice, à la police. Tout ça s'enclenche et produit des effets automatiques graves sans qu'il y ait le filtre de la raison. Nous sommes censés être le pays de Descartes et souvent je me dis en voyant fonctionner la justice aujourd'hui que nous sommes non pas le pays de la raison mais de la déraison. C'est extrêmement inquiétant. On a l'impression que tout peut se produire par manque de réflexion, d'attention, de lucidité. J'ai eu l'occasion de comparer le fonctionnement, il y a très longtemps, comme magistrat dans l'affaire dite des bébés congelés, de la justice coréenne du Sud, Séoul, et le fonctionnement de la justice française, puisque cette affaire démarre, l'affaire des bébés congelés, démarre à Séoul. J'ai eu entre les mains toute la procédure coréenne, la simplicité, de la rapidité, du bon sens.
Moi, vous m'aviez évoqué, je me souviens, voilà. Ça, oui, déjà.
Et en France, j'ai vu la lourdeur et une sorte d'absurdité, d'absurdistan, voilà, opérationnel en France. Alors, et là, c'est un peu ce qui s'est reproduit.
Alors, je vais...
Des fois, ce n'est pas la Corée du Sud, c'est un peu le Japon qui apparaît par, par la fenêtre, même si les protagonistes n'ont rien de japonais. C'est le prénom du bébé. Alors, je ne donnerai pas son nom, on va rester dans l'anonymat, mais je donnerai simplement un aperçu en l'appelant Asako. Voilà. Bon. L'enfant du matin, en japonais, et c'est bien une affaire qui démarre à l'aube d'une journée du mois de juillet 2024.
Fabienne Casamassima de Michael Justice, est-ce que tu veux que je lise le petit compte-rendu de l'affaire que tu m'as donné,
oui,
ou est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux le faire?
Non, je te laisse libre de le faire.
Mais à ce compte-là, oui, mais tu peux aussi le faire parce que tu connais l'affaire et puis ça te fera intervenir un petit peu.
Oui, mais je n'ai pas le document, je te l'ai envoyé, je ne l'ai pas imprimé.
D'accord. Alors, au mois de juillet... Alors, au mois de juillet 2024, la maman dont il est question recevait la visite à son domicile, le père de son bébé. Le lendemain matin, encore endormi, la maman se réveille et en s'approchant plus près de son enfant, constate que celui présente un hématome sur la tempe gauche. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, la veille, ils se sont un peu disputés les deux et on lui a lancé le bébé dessus. Donc elle contacte sa maman, donc la grand-mère, elle lui décrit le bébé en lui disant que son père l'avait jeté sur elle durant la nuit. La grand-mère se déplace immédiatement, voit qu'il y a un hématome et qu'il y a une jambe qui est un peu molle, donc ils prennent le bébé et ils l'amènent aux urgences. Alors, une partie des examens ayant été effectués, elles se sont rendues au commissariat pour déposer une plainte contre le père de l'enfant. Les deux parents étaient entendus immédiatement par les services de police. Après la plainte de la maman, une assistante sociale avait appelé les services d'investigation afin de leur dire qu'un signalement avait été effectué suite aux blessures de l'enfant qui avait aussi une fracture du fémur. Donc le bébé avait effectivement été endommagé par cette altercation. Les deux parents ont été mis en garde à vue. Là, ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut regarder quand même, c'est que l'hôpital, en fait, quand je vous dis que tout peut dégénérer lorsqu'on un instituteur, un enseignant, un docteur, une infirmière, c'est l'hôpital qui dit bon, d'accord, l'hôpital n'écoute pas ce que disent les parents, l'hôpital dit il y a un trauma sur le bébé, on fait une alerte, une assistante sociale vient. Donc une administrative qui n'a pas de notion en pédopsychiatrie, en psychologie, qui est quelqu'un qui n'a pas été formé vraiment, qui est visiblement administrative. Et là, il y a un signalement qui est effectué au procureur de la République. C'est intéressant parce que la façon dont tout est traité, en fait, vient de ce mode de fonctionnement, de cette façon de faire, qui au départ est bien intentionné, mais c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes aux bons endroits qui font les choses. Les parents sont en garde à vue, sous le placet de suspect, ils sont pris au procureur de la République. Le père sort sous contrôle judiciaire alors que la mère se voyait incarcérée. Et là, on voit aussi un schéma de manière assez régulière, c'est-à-dire qu'on accuse quelqu'un et la personne, en fait, qui fait les démarches en disant « Au secours, il faut aider mon enfant, regardez, il y a un problème », c'est elle qui se retrouve incarcérée et l'autre personne sort. Je dis ça, mais c'est difficile de faire des généralités, mais ce qu'il y a, c'est que ces choses-là sont tellement, comment dirais-je, criardes et difficiles à soutenir qu'on les remarque tellement qu'elle ne devrait pas exister, ne devrait pas y en avoir autant.
Ouais.
Donc, une demande de remise en liberté était effectuée en date du 26 septembre, enfin en 2024, et rejetée en octobre pour une durée de 4 mois. Donc, elle est restée longtemps quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, contrairement à ce qui se passe pour les gens qui accouchent en prison, il y a une rupture de lien entre la mère et son bébé. C'est un enfant qui était en allaitement et séparé de la maman parce qu'il y a une enquête pour information préoccupante.
C'est scandaleux.
C'est scandaleux. C'est-à-dire, personne ne pense à l'intérêt et aux droits de l'enfant. Moi, quand je dis que le métier d'avocat, dans le secteur de la famille et autres, en fait, c'est un métier qui devrait être différent, peut-être même celui, peut-être que le métier de défenseur des droits de l'enfant devrait être mis en place, parce que l'assistante sociale, elle est bien gentille, mais elle n'est, son rôle, ce serait de défendre l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est de rester avec sa maman sous observation, sous contrôle, en milieu judiciaire, comme ça se passe pour les criminels reconnus et qui sont vraiment condamnés, parce que là, elle ne l'est même pas.
C'est ce que j'allais te dire.
Bah oui,
c'est
tout à fait.
En France, Excusez-moi, mais aujourd'hui en France, je crois savoir que les détenues femmes, quand elles sont enceintes et qu'elles accouchent en prison, on leur laisse leur enfant pendant 6 mois.
Ah mais j'ai fait des émissions sur le sujet. Il y a de l'argent public qui est dépensé et des associations qui sont présentes pour maintenir les liens parentaux entre les criminels et leurs enfants parce que les enfants se portent mieux et les criminels et les prisons se portent mieux. Ouais. Et dans ce cas-là, alors que personne n'est condamné, et voilà, Maître Domergue.
Si on avait eu des charges tout de même, non pas sérieuses, mais simplement existantes, même faibles, contre la mère, on aurait pu comprendre néanmoins, en se disant, cette mère n'a peut-être pas tout son équilibre, à tout moment elle peut mettre en danger, voire attenter à la vie de son bébé, on aurait pu le comprendre que par précaution, on lui retire cet enfant. Mais il faut bien comprendre que tout est parti d'un malentendu terrible, dont la justice, à l'heure où je parle, ne s'est toujours pas vraiment persuadée, d'ailleurs. Quel est ce malentendu ? Comme ça a été décrit, le point de départ, ce qui motive la mère et la grand-mère à venir à l'hôpital, et ensuite au commissariat de police, c'est la constatation d'un hématome naissant au matin de ce mois de juillet 2024.
Donc, elles prennent soin de leur enfant. Elles ne sont pas en train de le traumatiser, de l'agresser ou de le rejeter. Elles sont en train d'essayer de s'en occuper.
D'accord. De protection et en même temps, une démarche de clarification, de demande de clarification, de vérité qui s'adresse à la justice. Oui. Elles veulent qu'on établisse les responsabilités. À ce moment-là, la mère fait un lien entre cet hématome et ce... Vous avez parlé du bébé jeté. Effectivement, ce geste incroyable qui est intervenu dans la nuit, vers 3h, 3h30 du matin, où le papa du bébé a jeté, et il le reconnaît dans une partie de ses déclarations, parce qu'il y a des déclarations très contradictoires, mais il y en a bien plusieurs où il parle de jeter son bébé ou de balancer son bébé sur la mer. Donc il jette par dépit, non pas d'ailleurs par jeu imbécile, il s'agit bien, il le dit, de faire payer en quelque sorte à la mère ses réflexions qu'elle adresse au père en lui reprochant sa brutalité à l'égard du bébé. Donc, puisque tu me dis ça, eh bien, occupe-toi de ton bébé. Donc, c'est une sorte de geste de représailles. Et même lui le reconnaît, ce sont ses paroles. Et il jette un bébé, alors... Depuis, j'ai fait mesurer, puisque le juge d'instruction refusait de faire une reconstitution, au moins un mesurage de ce fameux jet du bébé, pour qu'on mesure la gravité quand même de ce geste fait sur un bébé de 19 jours. J'ai d'ailleurs les mensurations de ce bébé. Hein. Il était très, très, très peu développé.
Non, mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête.
3 kilos.
On prend un bébé.
J'ai fait mesurer en fonction d'éléments constants que nous avons, puisque à défaut d'avoir un juge d'instruction qui instruit, puisqu'il a décidé de clôturer d'ores et déjà le dossier, j'ai fait mesurer les lieux. On balance en oblique un bébé, donc sur la diagonale d'un lit de 2 places. Le bébé atterrit sur le dos, sur les genoux de sa mère qui ne s'y attend pas. Sinon, elle aurait pu mettre ses bras pour amortir le choc. Là, ça intervient très rapidement, et donc ça a été mesuré à 1m30. On fait faire un jet d'1m30 à un bébé de 19 jours pour punir la mère de ses réflexions sur le comportement du père, qui par ailleurs est donc brutal, puisque précisément c'est le sujet de leur discussion, brutal avec un bébé.
Et ce qui est voilà. Encore plus grave, me semble-t-il, c'est que nous avons une grand-mère... qui dès qu'elle a l'information comme quoi il y a danger par rapport au petit, elle assiste sa fille, elles vont toutes à l'hôpital et ensuite elles vont porter plainte. Si c'est pas des mères protectrices, qu'est-ce que c'est en fait hein? Mais alors, souvent on a cette réponse-là quand les parents viennent demander de l'aide à dénoncer des violences. La seule réponse qu'ils ont, c'est on prend les enfants.
Voilà. Donc voilà.
Là, je vais préciser quand même pour l'affaire maintenant que Maître Domergue est l'avocat de la maman. Oui. Voilà, c'est quand même important. Précise votre position.
Je suis l'avocat à la fois de la maman et de la grand-maman.
D'accord, oui. Ok, vous êtes l'avocat de la mère et de la grand-mère, c'est vrai. Oui. Vous voyez, moi, je me suis placé, tout à fait, mais la logique est différente, moi je me suis placé naturellement.
Il n'y a pas donc d'incompatibilité,
il n'y a pas
de contradiction d'intérêt. Toutes les deux, pour moi, ont vocation à être parties civiles dans ce dossier. Elles sont venues dénoncer quelque chose. Mais voilà.
Oui, mais je comprends. C'est une question d'angle de vue. Vous voyez, vous, en tant qu'avocat de la maman et de la grand-mère, vous allez avoir une vision et un axe de vue. L'avocat du papa va avoir une autre vision et un axe de vue. Et vous avez vu, quand on m'a décrit l'affaire, mon premier réflexe, moi, c'était de me mettre à la position du bébé. L'intérêt de l'enfant, qui est encore un troisième axe de vue, et qui, je trouve, dans nombre de ces affaires, est extrêmement absent des débats. Et c'est là que je dis qu'il y a une lacune, parce que parler de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui devrait peut-être un petit peu défini, mais qui, en l'occurrence, quand il a 7 ou 8 jours, c'est quand même qu'il reste avec sa mère, parce que même si elle avait été, à une époque, à moitié shootée et incarcérée pour ça, elle aurait pu s'occuper de son enfant durant les 6 premiers mois. Hein, il faut quand même le savoir, si vous voulez. Dans les débats et dans l'exposé que j'ai eu dans les émissions précédentes, dans les discussions précédentes, et visiblement, l'institution judiciaire n'a jamais pris en compte cet angle de vue, cette vision. Vous avez la vision du défenseur de la maman, et moi, je dis qu'il manque cruellement dans les débats la vision de l'intérêt de ce bébé, quand même, qu'on est en train de mettre à côté, qu'on est en train de traumatiser parce qu'il va y avoir un syndrome de séparation par rapport à ses parents, alors qu'il n'en est pas prêt, il n'est pas encore passé par ses étapes d'émancipation, il n'est même pas encore aux quatre pattes, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on mesure les distances et on reproduit les jets du bébé, fait des trucs. Je dis, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce sens-là. Voilà.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, et excuse-moi, je reprends, tu as raison. Qui a pensé au... Alors, moi, je vais le dire parce que je connais bien la grand-mère. Je ne connaissais pas la maman, mais que je connais maintenant parce que l'association s'en occupe aussi. Ce sont deux femmes, moi, je vous le dis, remarquables. Hein, je vous donne mon avis parce que des guerrières comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je n'en ai pas connu beaucoup. Et aujourd'hui, nous accompagnons la grand-mère et la maman, je parle de l'association, pour justement reprendre ce lien avec le bébé. C'est comment on fait ? On a une maman qui aujourd'hui se plie à la justice, qui ne rencontre pas son enfant physiquement, mais elle fait tout quand même avec la grand-mère. C'est-à-dire qu'on a une grand-mère qui est là, qui fait en visio, qui fait participer sa fille. Alors moi, je vais vous dire, je dis respect. Voilà. Parce que c'est une évidence. Et on a quand même une grand-mère, puisque moi, je suis en relation assez souvent avec la grand-mère. J'ai dit, mais alors comment il va le petit? Comment il réagit? Est-ce que il se rend... Mais c'est un enfant qui redécouvre sa mère, en fait, hein, qui sourit, qui lui parle.
Il a combien de mois, là? Quel âge il a maintenant, là?
Heureusement qu'il y a la visioconférence.
Oui, exactement.
Quel âge il a maintenant, là?
Sinon, ce serait quand même une coupure.
Oui.
Parce qu'elle n'a pas le droit de rencontrer son bébé au moment où nous parlons.
Elle n'a pas le droit de le voir.
Mais ça, c'est hallucinant, parce que le bébé, pour se développer, a besoin du pot à pot et a besoin du contact maternel. Parce qu'aujourd'hui, sa psyché est confondue avec celle de la mère. Et c'est l'objet transitionnel qui l'aidera à appréhender le reste du monde, à s'en évader via le quatre pattes et à se dire que ce pouce, ce pied sont à lui et non pas à sa mère. Contrairement, enfin, je veux dire, tout un processus qui est extrêmement important. Il faut écouter ce qu'on a fait avec Patrick, avec Monsieur Clergé, les émissions sur Winnicott et autres. Plus grand drame, le plus grand scandale, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que la personne qui demande à l'aide, encore une fois, se fait taper dessus. Mais avant tout, le plus gros, mais elle s'en remettra, si vous voulez. Mais le plus gros drame, c'est cette première année de l'enfant qui est dévastée pour rien. Alors que nous savons mettre en relation une mère et son enfant sous surveillance. Nous savons le faire.
Et donc, en plus, je voudrais dire que quand même, la mise en examen, la garde à vue, la mise en examen et évidemment la détention provisoire de cette mère n'était fondée sur rien. Je voudrais quand même expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est parce qu'on vient dénoncer le fait d'avoir jeté ce bébé, puisque c'est le seul geste qu'a vu la mère. Mais il se trouve que le père se trouvait avec le bébé. Avant de jeter le bébé, il était dans une autre pièce en train de lui faire son rôle, puisque quand même, il avait très peu de contact avec son fils. Il était venu le voir 3 fois ou 4 fois depuis sa naissance. Il avait vu plusieurs jours après sa naissance pour la première fois. Et il acceptait de donner un biberon et de lui faire faire son rot. Mais tout ça avec des gestes brutaux et des propos, je n'entre pas dans les détails, qui étaient assez choquants sur sa façon de parler du bébé dont il, je veux dire simplement un mot, il n'avait rien à foutre, disait-il. Et donc, pendant une demi-heure environ, il se trouve dans une autre pièce. La mère est dans sa chambre et elle somnole, mais en même temps, elle est inquiète parce qu'elle sait que le père est brutal. Le jeune père, hein, c'est il a 10 ans de moins que la mère, il a une 20aine d'années. Et l'enfant arrive, on ne sait pas dans quel état, une expertise a été demandée, refusée, pour savoir si l'enfant ne se trouvait pas à ce moment-là déjà dans une sorte de coma, compte tenu des très graves coups qu'il a reçus et dont on s'est rendu compte après l'arrivée à l'hôpital, des examens approfondis, scanners, IRM, radio, etc. Et là, on découvre des fractures multiples, notamment du crâne et une fracture du fémur, comme vous l'avez rappelé. Donc, il y a eu une sorte de, entre guillemets, de passage à tabac d'un bébé. Mais ça ne se voit pas. Quand il arrive à l'hôpital, le bébé, personne ne voit ça. Et le bébé ne va être pris en charge que 39 minutes après son arrivée à l'hôpital. Il est classé dans les urgences numéro 2 en termes de priorité. Et donc, on se rend compte de ce tableau clinique désastreux que la mère n'avait pas vu, l'enfant lui ayant été remis presque, les yeux fermés, ne criant plus, mais se réveillant juste pour son biberon à 6h30 du matin.
Et il n'a pas pleuré de douleur, le bébé, rien du tout.
Voilà, reproché à la mère de ne pas avoir tout dit, c'est-à-dire ne pas avoir révélé des faits dont elle n'a pas été témoin.
Ouais.
Et ouais, donc, sur cette base d'une pseudo-contradiction de la mère, contradiction entre ce qu'elle a dit d'un bébé jeté et le tableau clinique qui va bien au-delà de ce que pourrait avoir comme conséquence le fait de jeter ce bébé même à 1m30, eh bien on considère qu'elle a menti, sans réfléchir d'une manière aussi simple que cela, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'était passé avant? Et non, elle ne l'avait pas vu. Voilà. Et ouais. Donc, sur cette seule base d'une pseudo-contradiction qu'on ne remet jamais en cause, eh bien, on va la placer en garde à vue d'une manière très violente. Nous savons que pendant la garde à vue, le père a été bien traité. Il y a des mots gentils qui ont été prononcés par l'officier de police judiciaire qui l'entendait. Et au contraire, elle a été extrêmement pressée et moralement soumise à une pression terrible pour avouer des faits dont elle n'avait pas commis et dont elle ne pouvait rien dire. C'est seulement qu'elle a pu faire état de cet épisode d'une demi-heure où le père, il ne conteste pas, s'est retrouvé seul avec un enfant. Et plus tard, elle s'est souvenue d'un grand bruit dans cette pièce qui était à côté. Elle, qui est à moitié sourde en raison d'un handicap personnel, elle a fini par comprendre ce qui s'était passé dans l'autre pièce.
Petite question, là, quand une garde à vue se passe comme ça, de manière un peu brutale, des gens qui se comportent mal, il y a des recours possibles?
Alors, déjà... Rapidement,
juste un point technique pour nos auditeurs. Parce que la garde à vue dénature, la garde à vue, c'est pour maintenir quelqu'un à disposition d'une enquête. Ça sert à ça. Ça ne sert pas à punir les gens pour les envoyer au cachot durant 24 heures.
La sanction d'une garde à vue qui ne se déroule pas normalement, c'est la nullité. C'est une sanction juridique.
D'accord. Okay. Voilà. Mais il n'y a pas d'indemnisation.
D'accord. Il faut arriver à prouver que les choses se sont passées comme on dit. Okay. Et il y a des enregistrements, en l'occurrence. On a des actes qui ont été enregistrés. Le problème, c'est qu'en France, on enregistre, mais on a peur de voir ce qu'on a enregistré. Donc, on n'a même pas le droit de consulter librement la vidéo de la confrontation, c'est soumis à des conditions très strictes, alors qu'il serait si simple
de diffuser
le film.
Vous, en tant qu'avocat, vous avez accès aux documents judiciaires, vous pouvez voir les interviews
Je ne peux pas voir la vidéo si le juge ne l'autorise pas.
Il faut attendre que l'instruction soit terminée, c'est ça?
Non, même pas.
Même pas.
Ça pourrait être pendant l'instruction.
Ah oui, d'accord.
Mais il faut que le juge l'autorise.
Ah, d'accord. Okay.
Excusez-moi, oui. Maître, mais... Maître Domergue, excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Dans ce dossier, on a deux parents qui sont mis en garde à vue, avec le témoin, le suspect. Mais pourquoi c'est que la maman qui va en prison? Je ne comprends pas.
Alors, c'était la question qui venait après. Elle est restée en prison combien de temps?
8 mois et quelques jours.
Alors, comment peut-on, sous quel motif peut-on garder quelqu'un 8 mois en prison? Parce que ça peut vous arriver, on se dit, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des animaux familiers à la maison, il y a des loyers, des choses. On vient, on reste en prison durant 8 mois. Quelle argumentation a été présentée pour garder cette personne durant 8 mois?
Voilà. Pourquoi la maman et pas le papa?
Oui, mais d'une manière générale, elle en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on la garde? Quel était le motif?
Mais à l'évidence, dans ce dossier, on l'a abordé avec l'idée que si on ne savait pas d'une manière très claire qui était à l'origine de ces violences gravissimes commises sur le bébé de 19 jours, les charges étaient plutôt contre la mère puisqu'elle était censée avoir dissimulé la vérité en allant à l'hôpital, en ne parlant que du bébé jeté. C'est-à-dire qu'encore une fois, on l'a prise pour une menteuse alors que tout simplement, elle ne pouvait pas révéler des faits dont elle n'avait pas été témoin et qui s'était déroulé dans une autre pièce.
Je veux dire, il reste 3 minutes. Une garde à vue.
C'est pour cette raison aussi qu'elle a été placée en détention.
Une garde à vue, c'est 48 heures maximum, sauf en cas de fait de groupe, on peut l'étendre un jour de plus. Mais on ne garde pas. C'est la préventive. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi elle est incarcérée là?
D'abord, maintenant, on appelle ça, et depuis longtemps, la détention provisoire pour montrer que c'est exceptionnel, alors que la préventive. Semblait être davantage déjà un pari sur la culpabilité.
Donc elle est en détention provisoire, ça veut dire qu'en fait elle est mise là provisoirement en attente de quelque chose,
alors,
c'est ça?
Alors d'une part, il faut être mis en examen évidemment pour être en détention provisoire, ce qui signifie qu'il faut des charges, des indices graves et concordants, première condition. Deuxième condition, il faut des raisons de la mettre à part, soit parce qu'il y a un risque de fuite, soit parce qu'il y a un risque de concertation avec des co-auteurs, soit parce qu'il y a un risque de pression sur des témoins,
Ce type
de raison.
Ça peut s'entendre. Et donc, elle, pourquoi durant 8 mois?
Eh bien, on va dire que, par exemple, puisque tout est possible, on envisage le scénario qui est démenti par le début de la procédure, qu'il peut y avoir une concertation entre les deux co-auteurs. Donc, ils sont susceptibles de se concerter.
D'accord.
Il suffit de le dire. Le problème, c'est que...
On veut les empêcher de se parler. D'accord, ok. Donc, le motif, c'est ça, qu'on ne veut pas qu'ils se parlent entre eux. Donc, on en prend un des deux et on l'emprisonne. Voilà, d'accord.
Pourquoi elle, pourquoi lui?
D'accord, ok. La logique sous-jacente, c'est celle-là. Ok, d'accord.
Elle est censée peut-être vouloir fuir ses responsabilités. Là aussi, ça va à l'encontre, pourtant... du début de l'affaire, où c'est elle qui va à la police, c'est elle qui va à l'hôpital.
Mais il aurait été possible, dans cette détention provisoire, de laisser un contact avec l'enfant, quand même.
Exactement.
Ah oui, alors, on évoque également le renouvellement des faits. Enfin, c'est encore une fois une mère qui va pour sauver son enfant à l'hôpital.
Oui, et puis encore une fois, en prison, si vous accouchez en prison, ou que vous avez incarcéré, vous avez un bébé, normalement...
Il faut bien distinguer que si on incarcère une mère parce qu'elle a tenté de tuer son bébé et qu'on a des éléments sérieux,
tout à fait.
On ne va quand même pas remettre le bébé dans la cellule avec la mère qui a tenté de l'étrangler.
Oui, je comprends.
Non.
D'accord. Okay. Bon,
là, on est dans un cas de violence sur bébé.
Oui, voilà. Je comprends. Ok. Bah, écoutez, on arrive à ces 30 minutes, c'est intéressant. Enfin, moi, quand je pense qu'avoir mon bébé, c'était la révolution, le truc le plus fort de toute mon existence, qui a complètement changé ma perception du monde et tout, c'est qu'un désastre. Mais je trouve que défendre les enfants, c'est bien, mais c'est quand même aussi trop souvent un désastre. Maître Domergue, merci beaucoup. Fabienne, merci beaucoup.
Et puis,
les auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.